Fondé en 1970 par François Cavana et le professeur Choron, Charlie Hebdo devient un journal satirique hebdomadaire qui accorde une large place aux caricatures et au sens critique dont témoigne la gauche politique issue de mai 68. Le 7 janvier 2015, se produit un attentat perpétré par deux frères qui assassinent une partie de l'équipe de Charlie Hebdo et parmi eux, un fleuron de caricaturistes. Alors, Charlie Hebdo, 5 ans après, la liberté d'expression, c'est fini ? Voici le débat qu'organisait le Centre d'Action Laïque et l'ULB avec Gérard Billard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Marika Brett, directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Laura Calabrese, professeur de journalisme à l'ULB, Jean-Jacques Gespers, professeur de journalisme et président du conseil de déontologie journalistique. Vous êtes au campus du Solbosch ce jeudi 13 février 2020, à l'auditoire K. Le débat est animé par Sandra Évrard.
Pour commencer, il me semble qu'il n'est pas inutile de rappeler le contexte de ce que l'on a appelé les attentats Charlie. Donc le 7 janvier 2015, les frères Kouachi entrent dans la rédaction de Charlie Hebdo, tuent 12 personnes, en blessent d'autres. Finalement, comment en est-on arrivé là, Gérard Billard ? Est-ce que vous voulez nous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque et nous expliquer pourquoi vous estimez que cet événement est arrivé ?
Alors pour ça, il va falloir faire un petit retour sur l'histoire de la publication des caricatures du Yilang Posten, qu'on appelle les caricatures de Mahomet. Donc elles ont été publiées par ce journal danois. Ça a évidemment, comme vous vous le rappelez, ça a créé une énorme polémique. Et les journalistes de ce journal, les dessinateurs, le rédacteur en chef, ont été évidemment menacés de mort. Ça a déclenché d'énormes émeutes dans certains pays. Des drapeaux danois ont été brûlés devant des ambassades. On a tout cela, on l'a vu aux actualités, comme on dit. Et il se trouve que, à la suite de ça, le journal France Soir décide, à son tour, en soutien à ce qu'il considérait à juste titre comme une menace sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse, le journal France Soir décide lui aussi de publier ses caricatures, ses 12 dessins. Le lendemain de la publication, le rédacteur en chef du journal est licencié par sa direction. Donc, nous décidons à Charlie Hebdo de publier, nous aussi, ces caricatures, de faire un numéro spécial, donc pas uniquement publier ces dessins, mais également construire autour un appareil critique, expliquer pourquoi nous les avons publiés, rappeler le contexte, voilà. Et nous avons demandé à la totalité des titres de presse en France de faire de même. Je ne sais pas exactement à l'époque combien il y avait de titres de presse en France, en tout cas de presse généraliste. Il se trouve que deux journaux l'ont fait. L'Express a publié les 12 caricatures. Libération en a publié quelques-unes. Et puis, on a commencé à entendre tout un tas de savantes analyses sur l'huile sur le feu, sur l'inutile provocation, que ce soit des milieux intellectuels, de certains milieux intellectuels, que ce soit d'hommes politiques. Jacques Chirac, à l'époque, a dit de Charlie Hebdo que nous étions des irresponsables qui mettions de l'huile sur le feu. Il serait bon d'ailleurs de rappeler que Jacques Chirac, au moment de l'affaire Roujdi, avait déclaré qu'il n'avait aucun respect pour les blasphémateurs. Donc voilà, ça aussi, ça remet en contexte sa pensée. À la suite de tout ceci, il y a une ambiance générale qui s'est installée dans les sphères intellectuelles et dans les sphères médiatiques, qui a conduit à ce que Charlie Hebdo soit menacé de mort, enfin que ses dirigeants aient une fatwa sur leur tête, que les locaux du journal soient incendiés en 2011, et finalement que l'attaque du 7 janvier ait eu lieu. À la question que s'est-il passé, on nous pose souvent une autre question, c'est que serait-il passé si vous n'aviez pas publié les caricatures? Et à chaque fois, moi j'ai envie de poser une autre question, je la pose d'ailleurs. Que se serait-il passé si tous les journaux du monde, pour défendre la liberté de la presse, les avaient publiés, ces caricatures?
Et précisément, donc, 7 janvier 2015, dans la foulée, arrivent ces slogans « Je suis Charlie ». On parle aussi d'esprit Charlie à ce moment-là, donc, qui aurait été attaqué. Comment est-ce que vous avez vécu cela à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'on met dans l'esprit Charlie et « Je suis Charlie » Peut-être Marie Cabret, si vous voulez débuter.
Alors, on va rappeler le « Je suis Charlie ». Le « Je suis Charlie » est né le 7 janvier à midi. Ce n'est pas Charlie Hebdo qui a dit « Je suis Charlie », vous vous en doutez bien. Le « Je suis Charlie », c'est Joachim Roncin, qui est un lecteur occasionnel du journal, qui travaille dans la pub par ailleurs, et qui face au désastre, à ces trois mots-là, qui deviennent, qui lancent sur les réseaux, et ça devient viral, et qui voulait en réalité dire, tout simplement, l'attachement profond, sans restriction, à la liberté d'expression. Pas à la liberté d'expression, mais à la liberté d'expression, point. C'est ça qu'a voulu dire ce slogan, et c'est la raison pour laquelle les gens se sont retrouvés par millions le 11 janvier sur toutes les places, les villages, des villes, partout, pour dire leur attachement à cette liberté. Ces millions de gens n'avaient pas lu le journal. Ces millions de gens ne connaissaient pas les dessins de Cabu, de Wolinski, de Cavana. Une partie oui, une partie non. Donc c'est cet attachement-là, et cet attachement a été tellement fort, ce rassemblement a été tellement important, qu'il a fallu trouver des gens qui effectivement ont voulu contredire cet esprit de liberté en réalité, et qui ont commencé à salir cet esprit de « je suis Charlie », de ce que voulait dire le « je suis Charlie ». Moi j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu ce « je suis Charlie » ce jour-là, à ce moment-là, face à une horreur pareille, face à une barbarie pareille. Je voudrais juste rappeler qu'en 2011, les locaux du journal ont été incendiés, le site internet a été piraté, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu vraiment de réponse. Il y a eu une manifestation à la place de l'Hôtel de Ville. S'il y avait 100 personnes, c'était le bout du monde. Donc, heureusement qu'il y a eu le « Je suis Charlie », et heureusement qu'il y a eu ce 11 janvier, heureusement qu'il y a eu cette unité nationale sur nos principes qui nous fédèrent, et non pas qui nous divisent, qui nous fédèrent.
Donc, qu'est-ce qu'il en reste ? Ces principes, ces valeurs, quelles sont-elles ?
Alors, sur le 7 janvier, il y en a deux, très clairement, la liberté d'expression et la laïcité. La liberté d'expression, dans cette expression et ce langage satirique qui fait partie de la liberté d'expression. Il y a une pétition, quand il y a eu l'incendie dans les locaux, il y a une pétition qui a circulé, signée par des gens de l'extrême gauche, qui disaient, cette pétition disait « pour la liberté d'expression, contre le soutien à Charlie Hebdo », c'est-à-dire qui excluait Charlie Hebdo du champ de la liberté d'expression. On en était déjà là en 2011. Donc c'est ça, et c'est la laïcité qui est une liberté, un principe et une liberté. Les deux ont été visés le 7 janvier 2015.
Gérard Biard, vous avez ressenti les choses de la même façon le 7 janvier 2015 face à finalement cette foule de personnes qui, à travers le monde, a soutenu « Je suis Charlie », même si tout le monde ne l'a pas fait, mais néanmoins, il y a eu quand même de nombreuses personnes.
Bah oui, parce que ça a correspondu c'était la réaction à un traumatisme. C'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on attaquait un journal dans la rédaction d'un journal dans une démocratie en temps de paix. Donc il faut bien dire aussi, en tout cas en France, que une partie des gens qui ont disparu ce 7 janvier, Cabu, Volinsky, ils avaient accompagné toute la vie ou une partie de la vie de millions de Français. Et Cabu particulièrement, que ce soit avec le personnage du Grand Duluche ou que ce soit avec Récréa 2, il a été le dessinateur de millions d'enfants. Donc c'est à ça aussi que répondait ce je suis Charlie et évidemment cet attachement aux valeurs. Et puis après les choses à dire sont redevenues un tout petit peu plus normales entre guillemets, c'est-à-dire que d'abord le slogan je suis Charlie a été mis à toutes les sauces. Maintenant il se passe n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui pile au feu rouge, c'est « je suis à moitié écrasé au feu rouge », hashtag. Donc bon, c'est devenu une marque déposée, je suis. Et puis surtout, l'esprit Charlie, il a été, et il l'est toujours d'ailleurs, instrumentalisé par des individus qui ne défendent pas du tout les valeurs de Charlie. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les valeurs de Charlie sont indéfendables.
Justement, parlant des mots, Laura Calabrese, donc je rappelle que vous êtes professeure de communication à l'ULB, spécialisée dans l'analyse de discours. Donc, dans cette période post-attentat, mais également donc les 5 années qui ont suivi, il y a eu plusieurs mots qui ont été choisis, mais des images aussi publiées dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ne serait-ce que le 9 janvier 2015, le hashtag « Je suis Charlie » a été utilisé 5 millions de fois. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Comment est-ce que vous analysez, vous, cette utilisation des mots qui ont été utilisés depuis lors?
Alors, en termes de mots, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui touche à Charlie Hebdo, c'est un terrain miné. Et on est très vite pris dans des dynamiques discursives auxquelles on ne peut pas échapper et auxquelles on ne veut peut-être pas participer. Et on est happé dans des polémiques et dans des catégories toutes faites qui sont très simplificatrices. Alors on l'a vu aujourd'hui dans la polémique qui a éclaté. On est soit un facho, on est soit un laïcard, soit un islamo-gauchiste. Bon, ça c'est assez regrettable. Et cette polarisation des opinions un peu préfabriquée, on l'a vu à l'œuvre tout de suite après les attentats, parce que les slogans ils ont fusé. On était tout d'abord voilà Charlie. Tout de suite après, on l'était pas. Donc, on était ou on n'était pas.
Puis il y a des mots qui sont aussi arrivés finalement qu'on utilisait beaucoup moins auparavant, comme islamophobie. C'est des mots qui sont de plus en plus courants. Oui.
Alors, islamophobie, c'est un mot qui, c'est pas un des mots qui a été le plus utilisé, mais effectivement, c'est un mot qui a été fort instrumentalisé. On a qualifié les dessins d'islamophobes, et donc du coup, on participe dans de cette confusion autour de ce qui relève du racisme. Anti-musulman ou anti-arabe et ceux qui relèvent de la critique de la religion. Donc effectivement, il y a eu quelques caricatures qui parlaient d'islamophobie, qui accusaient Charlie Hebdo d'islamophobie. En termes d'images, il y a eu une profusion d'images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais fait une étude avec une collègue de l'université de Gand. On avait analysé des centaines d'images. Et en fait, on avait vu que l'image qui revenait le plus souvent, à peu près 80% des images qui circulaient, qui avaient été produites par d'autres dessinateurs, c'était la plume contre l'épée, on peut dire, puisque c'est une image qui appartient à l'imaginaire occidental, on peut dire. Et donc c'était le crayon contre la Kalachnikov. Ça c'était la et c'était assez hallucinant parce que c'était spontané, c'était un mouvement spontané. On avait récupéré des images qui avaient circulé tout de suite après, donc les gens ils s'étaient pas mis d'accord pour ça. Mais effectivement, c'est une.
Et ça dit quoi de notre époque ? Qu'est-ce que ça dit de notre époque ?
Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Ouais. Eh bien, c'est assez transparent. Non, la violence physique contre le crayon, la plume, le pinceau, ça représente la liberté d'expression, mais ça représente aussi le fait que l'on peut lutter, on peut combattre par la parole, on peut éventuellement exercer de la violence symbolique. Mais il y a la limite avec la violence réelle que représente l'arme, la Kalachnikov. Mmh.
Marika Brett, je pense que vous êtes aussi très très attachée à la bonne utilisation des mots. On en a souvent parlé, enfin, laïcard, islamophobe. Vous entendez à chaque fois, notamment, que vous parcourez les classes, que ce soit les classes secondaires, les universités, vous rencontrez les étudiants, de remettre les mots à leur juste place. Vous êtes aussi très attachée à la bonne utilisation oui. Des mots, oui. Parce qu'ils sont quand même instrumentalisés, oui. Notamment chez Charlie, c'est ce qui se passe en permanence quand on vous attaque, c'est finalement une utilisation des mots qui n'est pas toujours la bonne, donc vous êtes attachée...
C'est une manipulation des mots, mais c'est une manipulation politique au service d'un projet politique. Je voudrais quand même rappeler, parce qu'on est en train de parler du slogan « Je suis Charlie mm-hmm. », je voudrais rappeler le 8 janvier et le 9 janvier, je voudrais dire qu'il y a eu le « Je suis Charlie », »,« Je suis policier », »,« Je suis juif ». Et pour moi, c'est très important de rappeler ces trois slogans qui sont nés sur ces trois jours-là, parce qu'effectivement, on a attaqué des journalistes pour ce qu'ils disaient et pour ce qu'ils pensaient. On a attaqué des policiers en tant que représentants de la République, de l'ordre, de la paix dans la République. Et on a attaqué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Donc voilà, je voulais juste resituer complètement le contexte « Je suis Charlie », qui est cette entité-là. Et oui, mon attachement au mot profondément, mon attachement à la compréhension quand par exemple là en ce moment on parle beaucoup de blasphème, je serais curieuse de savoir ceux qui contestent et qui aimeraient remettre au goût du jour le délit de blasphème, comment ils définissent le blasphème par exemple, quelle est leur définition du mot blasphème. Donc oui, je suis attachée je suis notamment attachée à ça, mais je suis attachée par-dessus tout parce que d'avoir côtoyé des Cavanna, des Cabu, des Wolinski, des Charbes, etc. C'est de savoir lire un dessin, en fait, et de savoir le lire jusqu'au bout, et dans son intention, et dans son objectif. Et ça, pour moi, c'est la base. C'est la base de l'éducation, c'est la base de la culture, apprendre à lire un dessin, et dans sa totalité, et non pas en partie, comme ça a été fait avec le dessin de Cabu, qui lui a valu le procès, où les gens, où le prophète se tenait la tête entre les mains. Les gens ont retenu que le prophète disait « c'est dur d'être aimé par des cons », en oubliant volontairement que la phrase au-dessus, c'est « Mahomet débordé par les intégristes ». Donc c'est non seulement attaché aux mots, mais à la totalité des mots.
Jean-Jacques Gespers, donc je rappelle que vous avez été journaliste à la RTBF durant une trentaine d'années. Comment vous, en tant que journaliste, parce que c'est aussi la profession qui a été attaquée, vous avez vécu ces événements-là ?
En tant que journaliste, moi j'ai d'abord vécu ça comme n'importe qui, c'est-à-dire comme une sorte de chute dans l'abîme. Enfin, c'est tout un pan de notre histoire intellectuelle et artistique aussi qui s'est effondré en un jour. Des noms qui étaient pour nous des idoles, un mode d'expression qu'on considérait comme étant tout à fait normal et qui faisait partie de notre culture, qui disparaissait comme ça d'un coup. Et alors, en plus, l'émergence de la violence, nous, on est quand même relativement protégés contre ça, en général. Dans les 50 pays sur 197, d'après Reporters sans frontières, où il y a vraiment liberté de la presse et liberté d'expression. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une caractéristique rare sur notre planète, et ce n'est pas partout. Donc, des attentats contre les journalistes, des journalistes tués, des journalistes emprisonnés, menacés, molestée, ça arrive tous les jours, partout, sauf en principe dans ces 50 pays. Et donc le fait que tout à coup ça arrivait dans ces pays-là, où on était censé protéger la liberté d'expression, c'était comme une sorte de coup de bambou, quoi. Mais pas tellement en tant que journaliste, en tant que citoyen. C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse qui était attaquée, c'était pas les journalistes.
Justement, le dessinateur Rist, donc, qui a survécu à l'attentat, qui est aujourd'hui le directeur de la rédaction, affirmait récemment que l'attentat de Charlie était une exécution politique. Comment est-ce que la rédaction s'est réorganisée donc, après ces terribles événements? Comment est-ce qu'on fait équipe après un tel drame? Et comment est-ce que finalement on assure la relève des caricaturistes, qui sont l'essence même du journal Marika peut-être?
Alors comment la rédaction s'est organisée? Pour la première fois et aussi longtemps dans l'histoire de la presse, un journal a hébergé un autre journal. Le journal Libération a hébergé Charlie Hebdo pendant plusieurs mois. Et d'autres journaux sont venus à ce moment-là à la rescousse. Bien voir qu'effectivement, c'est pour ça que je rappelais aussi le 8 et le 9 janvier, c'est que c'est dans ce contexte-là, cette semaine-là que ça s'est passé, que le numéro du 14 janvier est sorti, parce que très probablement c'est la seule fois où on pouvait s'autoriser à les faire parler tous et à dire que ça, ce numéro-là, il l'aurait voulu, vraiment, pour dire que les frères Kouachi n'avaient pas gagné et qu'il fallait ce numéro. Et après, je vais être très concrète, la semaine d'après, on les a tous enterrés. On a eu des journées avec 4 cérémonies par jour. Voilà. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on reporte à plus tard, en sachant que toutes les réponses étaient légitimes. Il n'y en avait pas une qui ne l'était pas. Parce qu'après un drame pareil, une horreur pareille, un traumatisme pareil, il n'y a pas celui qui a la bonne réponse. La majorité l'a décidé, le journal a continué, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et il y a deux étapes majeures. C'est se reconstruire soi-même, parce qu'on ne peut pas reconstruire un collectif si on ne sait pas, à minima, à reconstruire un tout petit peu soi-même. Pouvoir se réasseoir autour d'une table de rédaction avec tant d'absence autour de la table, avec tant de rires qui manquaient, avec tant de sons qui manquaient. Donc c'était long, c'est-à-dire le journal ressort, peut-être qu'il ne sera pas bon, il ne sera pas léger, il ne sera pas drôle, et pour cause, mais au moins le journal continue. Parce que très profondément, qu'est-ce qu'ils nous ont appris et qu'est-ce que nous transmettons nous à notre tour? C'est pour moi, c'était une question majeure. Et sur les collaborateurs, je vais laisser Gérard répondre.
C'était aussi un des éléments indispensables. Pour que le journal continue longtemps, c'est trouver de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs. Ça n'a pas été facile. D'abord parce que, évidemment, plein de gens hésitaient à venir à Charlie Hebdo. On comprend, c'est parfaitement... Si on ne peut plus compréhensible. Et puis, c'est un journal un petit peu particulier aussi. C'est une espèce de famille de dingue, un peu. On peut y mettre les pieds et puis s'y sentir à son aise, forcément. Mais on y est arrivé, petit à petit. Aujourd'hui, 5 ans après, il y a de nouvelles dessinatrices. Enfin, il y a une nouvelle dessinatrice, qui est Alice. Il y a de nouveaux dessinateurs, jeunes. Il y a des nouvelles et des nouveaux journalistes. Ce sont des gens qui n'étaient pas là le 7 janvier, donc qui n'ont en tout cas pas eu à évacuer ça, qui sont arrivés avec une autre vision et puis également avec avec leur propre pensée, leur propre mode d'accrocher l'actualité, parce que c'est d'abord ça. Charlie Hebdo, c'est un journal qui ne fait que commenter l'actualité. C'est juste notre boulot. On fait pas de croisade, On ne fait pas. On est un journal de commentaires de l'actualité, un journal politique, satirique. On le commente avec nos outils. Mais on ne fait que ça. Donc il fallait que ces jeunes collaboratrices et collaborateurs s'emparent aussi de ce journal, trouvent leur place dans la rédaction et permettent au journal de continuer, mais de continuer, pas de continuer 2, 3, 4 ans, de continuer encore 50 ans. Parce que ceux qui restent et qui sont restés, de l'équipe de Charlie Hebdo qui a refondé le journal en 1992, on n'est pas genoux, hein. mais on porte le journal porte aussi des idées.
Justement, on reproche parfois à Charlie Hebdo d'avoir ses marottes de revenir régulièrement avec les mêmes sujets. Vous reconnaissez là-dedans, donc évidemment, on peut citer les religions, mais il y en a d'autres. Vous reconnaissez dans ces reproches ou comment est-ce que vous y répondez ?
Mais c'est l'actualité qui a ses marottes. On n'aurait jamais dessiné Mahomet si Mahomet ne s'était pas invité dans l'actualité. On n'a aucune raison de. On s'en fout de Mahomet. Complètement, hein. Donc c'est juste, on fait juste notre boulot de journaliste satirique et politique. Donc c'est tout ce qu'on aspire à continuer à faire et à le faire de préférence avec pertinence et si possible joyeusement.
Donc, on l'a dit pendant cette première partie de la conférence, donc l'atteinte à la liberté d'expression, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. On a l'impression que ça s'empire un petit peu, du moins c'est une impression que certaines personnes ont. Pourtant, la loi, la jurisprudence, du moins sur le sol européen, est extrêmement claire quant au droit à la liberté d'expression sous nos contrées. Jean-Jacques Jespers, vous avez une formation de juriste. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu le cadre dans lequel en Europe, finalement, tant les journalistes que le citoyen se retrouvent ?
Bon, ben, la liberté de penser et la liberté d'expression, c'est évidemment des libertés fondamentales qui sont contenues dans tous les textes internationaux la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc. Tous les textes qui ont valeur de loi et qui sont applicables dans nos pays, mais je rappelle, dans les 50 ou quelque chose comme ça, pays du monde, où les conditions sont réunies pour qu'on puisse réellement parler de liberté d'expression et de liberté de la presse. Alors, la liberté d'expression, elle est très très largement garantie par tous ces textes, par toutes les constitutions de ces États démocratiques, par les lois de ces États démocratiques, et elle est très large. En Europe, nous avons la chance d'avoir un tribunal qui veille à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Elle a une jurisprudence très large en matière de liberté d'expression, un très célèbre arrêt de cette Cour qui s'appelle l'arrêt Handyside et qui date de 1976, dit la liberté d'expression, ça contient non seulement les idées courantes, mais aussi les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. Un autre arrêt de la Cour dit la liberté de l'expression, ça comprend aussi une part de provocation. La provocation, ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, la définition est très large. Néanmoins, il y a quand même des limites qui ne sont pas tout à fait les mêmes, d'ailleurs, en Europe et, par exemple, aux États-Unis, où là, le premier amendement de la Constitution américaine donne une très, très grande liberté de tout dire, sauf les appels très, très précis à la violence. Dans nos pays, ici en Europe, il y a des limites. L'article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme fixe un certain nombre de limites. En gros, trois limites. D'abord, pas de violence, évidemment. Ça, c'est la première chose. Pas de menace, pas de violence. Ça relève du droit commun. C'est la loi pénale. Vous tapez quelqu'un, vous êtes poursuivi. Deuxième limitation, c'est la limitation qui touche aux personnes. La calomnie, la diffamation, l'injure sont punies par la loi. Et vous êtes susceptible d'être poursuivi. si vous pratiquez la calomnie, la diffamation ou l'injure envers une personne. Troisième limite, et ça ce sont des précautions qui visent les collectivités, qui sont des limites collectives, c'est l'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation. L'incitation, ça veut dire très clairement des propos qui incitent au passage à l'acte, qui poussent au passage à l'acte. On n'a pas exterminé assez de juifs pendant la guerre. Il faut renvoyer les berbères au Maghreb, etc. Des expressions très claires. Il ne s'agit pas d'exprimer des opinions, il s'agit de donner des incitations à agir. C'est ce qu'on appelle les discours de haine. Alors, en dehors de ça, théoriquement, la liberté d'expression est totale. Mais, évidemment, la liberté d'expression, c'est pas univoque. Quand vous revendiquez la liberté d'expression, vous la revendiquez pour vous, mais aussi pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté de dire qu'on n'aime pas Charlie Hebdo, qu'on trouve que Charlie Hebdo réac, des trucs comme ça. Si ça n'existe pas, alors il n'y a pas de liberté d'expression. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une conformation où les échanges d'opinions prennent souvent des tours assez violents, avec des propos, avec des mots très excessifs, avec des injures, avec des termes très violents, très durs. Mais après tout, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour la liberté d'expression. On parle de censure. La censure, au sens strict, elle ne peut venir que d'une autorité publique. La censure, ça consiste à empêcher, a priori, un dessin, un texte, une expression d'être diffusé. Votre adversaire ne peut pas vous censurer, sauf s'il obtient, par un lobbying quelconque, s'il obtient de la puissance publique qu'il relaie vos avis, vos opinions, par exemple, en faisant voter une loi anti-blasphème. Ça peut arriver, c'est arrivé dans certains pays. Mais ce qui se passe, c'est parfois de l'autocensure, parce que la violence des échanges est telle qu'une certaine peur s'installe, pas seulement la peur des menaces, comme celle qui plane constamment, malheureusement, sur la rédaction de Charlie Hebdo, mais aussi la peur d'être ostracisé, d'être considéré comme hors-jeu, d'être placé sous les regards, la peur de ne pas être politiquement correct, etc. Et ça peut conduire à l'autocensure. Donc il faut, à côté de la liberté d'expression, il faut aussi la force de la conviction et la force de la résistance à la tentation de l'autocensure. Ce que je veux dire en terminant, c'est que dans notre législation, ce qui est réprimé par la loi, c'est toujours a posteriori. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la censure n'existe pas. C'est toujours a posteriori. Vous êtes poursuivi lorsque vous avez commis éventuellement le délit de calomnie ou de diffamation, mais après que le texte, l'image a été publié. Vous êtes poursuivi si vous avez incité à la haine, à la discrimination, à la ségrégation, mais après, une fois que le texte a été publié. Donc, c'est ça le régime. Liberté et responsabilité. J'ai la liberté de dire tout ce que je veux, mais je suis responsable de ce que je dis et je peux éventuellement subir des inconvénients si ce que je dis entraîne des conséquences négatives.
Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette dernière phrase, Tan Marika ou Gérard Billard, on peut subir, mais vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je voudrais juste rebondir sur le fait que c'est bien dans les faits, il y a bien une censure qui s'exerce, parce que, alors heureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand on a cette forme d'expression qui vient d'individus ou de groupes d'individus, qui exige par exemple qu'un débat ne se tienne pas dans une université, par exemple le communiqué qui a circulé aujourd'hui. On a évidemment le cas régulièrement en France. Et régulièrement, ces individus et ces groupes d'individus obtiennent l'annulation de la conférence. Donc il y a bien une censure qui est exercée pour ne pas avoir d'emmerdement, pour ne pas faire de vagues, pour, voilà, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais dans les faits, c'est bien une censure.
Mmh. Oui, d'ailleurs, enfin, le numéro du 7 janvier dernier, vous dénonciez ces nouvelles, enfin, ce que vous appelez de nouvelles formes de censure. Et dans notre magazine Espace de Liberté, vous affirmiez que l'on trouve parmi les nouveaux censeurs l'expression d'une pensée communautariste qui ne voit pas le monde comme un tout universel, mais comme un agrégat de communautés et d'individus qui ont des droits qui prévalent sur les droits collectifs. Alors, vous avez donc, on en a parlé, entendu cette polémique d'il y a 24 heures. On vous a notamment, vous, l'équipe Charlie, traité de réactionnaire. Est-ce qu'on est là-dedans ? C'est de ça que vous vouliez parler dans ce numéro-là ?
Oui, c'est ça, en fait. C'est une forme de censure qui est très perverse parce que, comme vous le rappeliez, d'ordinaire, la censure, c'est institutionnel. C'est exercé par l'État, par une autorité, par une institution religieuse ou civile. Là, ce sont des individus, des groupes d'individus qui, au nom d'intérêts autoproclamés, réclament l'exercice de cette censure. Parfois aussi, par leurs interventions, et je vais vous citer un exemple concret, des groupes d'individus de ce type, d'extrême gauche, sont intervenus lors d'une conférence de François Hollande. Bon, on pense à ce qu'on veut de François Hollande, mais bon, c'est pas... voilà, enfin... Il déclenche plutôt généralement l'assoupissement qu'autre chose. Donc, voilà... Et là, en fait, ces groupes d'étudiants ont fait irruption dans l'amphithéâtre, dans l'auditorium où avait lieu sa conférence, sont arrivés sur scène, se sont emparés de ses livres, ont déchiré ses livres. L'image est quand même assez frappante.
Pardon, je te coupe juste une seconde. L'objet de la conférence, parce que quand même, ça ne s'invente pas. Voilà. François Hollande venait parler de la crise de la démocratie.
Voilà, donc on a affaire à ce type de, à cette forme vraiment très perverse de censure, d'autant plus perverse qu'elle s'exerce au nom, prétendument au nom de valeurs qui sont tout à fait défendables, qui sont l'antiracisme, qui sont le féminisme, qui sont le respect des LGBTI, enfin voilà. Et évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ces valeurs-là et avec cette défense-là. Mais là où se pose le problème, c'est que il est impossible d'avoir un débat sur la manière dont on s'empare de cette défense. Parce que toute la question, elle est là. C'est que aujourd'hui, il y a une multitude de formes d'antiracisme, par exemple, ou une multitude de formes de féminisme. Alors qu'au fond, à mon sens, pour moi, il n'y en a qu'une forme. Il n'y a qu'une façon de définir l'antiracisme, c'est de dire que tous les êtres humains ont le droit au même droit. Pour moi, l'antiracisme, c'est ça. Bon, il y a des tas d'autres formes aujourd'hui d'antiracisme et des formes très, effectivement, communautaristes. Je dirais presque, enfin, pas presque d'ailleurs, je dirais même identitaires. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est que cette demande de censure s'exerce aussi au nom d'une sensibilité.
On parle d'une dictature de la sensibilité. Vous êtes d'accord avec ce terme ?
Bah, j'aime pas beaucoup. J'attache l'importance au mot. Une dictature, c'est pas un mot qu'on emploie n'importe comment. C'est comme fasciste, c'est comme nazi. Voilà, à force de traiter tout le monde de fasciste et de nazi, on oublie ce qui fait la caractéristique du nazisme et du fascisme. Donc, je préfère employer d'autres mots. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve face à des individus qui ont une sensibilité, bah, bien évidemment, tout le monde a une sensibilité, mais qui exige que cette sensibilité devienne une norme, qui exige que ça devienne presque un projet social.
Mais comment bâtir une société? Parce que il y a des millions et des millions de sensibilités différentes. Donc il faut des millions et des millions de normes différentes qui s'opposent entre elles, qui se déchirent. Donc on est dans une espèce de débat quand il y a débat, qui est absurde, ubuesque et à la limite du grotesque. Si ça n'avait pas des conséquences aussi graves, on en rirait presque.
Laura Calabrese, vous voulez rebondir sur ce sujet?
Oui, j'aimerais quand même ajouter pour recontextualiser un peu tout ça, c'est que ces atteintes à la liberté d'expression, elles ne viennent pas uniquement que des groupes de gauche ou d'extrême gauche, et que en tout cas, la France, elle découvre ça parce que voilà, c'est tout nouveau, mais aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Mais que ces atteintes à la liberté d'expression, il y a énormément de gens qui les subissent, et notamment des journalistes, notamment des femmes, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux. Alors, le cas le plus récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est celui de Julie Hainaut, qui est harcelée par des néo-nazis. Il y a des groupes de féministes qui sont harcelés en ligne par des masculinistes. Et donc ça, on en parle très peu, mais c'est le quotidien de beaucoup, beaucoup de femmes journalistes. Donc voilà, je trouve qu'il faut aussi dire...
Non, mais bien sûr.
Les méthodes sont les mêmes. On revient sur ces méthodes de harcèlement, justement.
Parler simplement
de, voilà. et de ces méthodes qui veulent distiller la peur. Distiller la peur, c'est comme ça qu'on commence à empêcher tout débat. On commence à faire peur et à dire, oh là là, vous risquez de. Alors, le risquer de, il est large dans ses conséquences, mais effectivement, ça commence comme ça. Et ça commence par dire quel sujet on peut traiter ou quel sujet on ne peut pas traiter, quel mot on peut utiliser, quel mot on ne peut pas utiliser. On en arrive quand même à cette situation. Moi qui suis féministe, on me demande, parce que je suis une féministe et qu'on a réintroduit la couleur de peau dans le débat public, je suis une féministe blanche, dite blanche, non racisée, donc on me demande de me taire. On en est quand même à ce niveau-là. Les méthodes sont exactement les mêmes. Ce que vous dites, c'est la même chose. Les méthodes sont exactement les mêmes. Qu'en est-il de la liberté d'expression? C'est la question. Vous mettez un point d'interrogation à juste titre.
Sur Jacques Lespers.
Mais tout ça est exact. Le vrai problème, c'est comment réagissent les autorités publiques qui sont censées protéger la liberté d'expression, qui sont censées protéger la liberté de la presse. Est-ce qu'elles relaient ou est-ce qu'elles ne relaient pas? Est-ce qu'elles se plient ou est-ce qu'elles ne se plient pas? Quand la violence s'exerce, la violence, elle est illégale. Il faut l'empêcher, il faut la réprimer. Si elle s'exerce librement, sans intervention de la puissance publique, là, il y a vraiment un gros problème. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que en Europe, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est le garant de nos libertés, elle a connu des tendances un peu inquiétantes. Par exemple, dans les années 90, il y a eu des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui tendait à considérer que le blasphème n'était pas acceptable, que ça heurtait la sensibilité d'une partie importante de la population et que donc les gouvernements ou les juges de certains pays avaient légitimement interdit certaines choses parce que ça portait atteinte à l'ordre public. Heureusement, cette tendance, elle a plus ou moins disparu dans les années 2005-2010. On est revenu à une conception plus correcte, si je puis dire, ou plus conforme à l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme, mais il y a eu des jugements très inquiétants et qui sont le reflet aussi d'une évolution de l'opinion publique dans certains pays. Il ne faut pas oublier que dans le Conseil d'Europe, donc l'institution qui a créé la Cour européenne des droits de l'homme, il y a 47 pays dont... beaucoup de pays de l'Est, beaucoup de pays qui ne sont pas vraiment des démocraties, etc., qui envoient des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, et donc avec des conceptions qui se confrontent de manière assez inquiétante parfois. Donc le problème, c'est l'intervention de l'État, c'est l'intervention des autorités, et c'est la protection dont ne bénéficie pas toujours la liberté d'expression, là où elle devrait être davantage protégée.
Parlons de cette possibilité de blasphémer. Bon, dans l'actualité récente, on a le cas de Mila. Est-ce que là, justement, l'État a joué son rôle ?
Ben, la ministre française, elle a un petit peu déraillé, là. Enfin, elle est retournée dans les rails assez vite. Mais enfin, un cas difficile, hein, parce qu'il y a plein de choses marginales sur des personnes qui ont repris le flambeau, qui prétendent être ses porte-parole, etc., etc. Mais c'est très confus, très confus. Le blasphème, c'est une atteinte à une foi, à une croyance. Si vous n'êtes pas un adepte de cette foi de croyance, comment pouvez-vous être atteint ? Ou comment pouvez-vous atteindre ? Il n'y a de blasphème qu'à l'intérieur du système de valeurs de cette croyance ou de cette foi. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas adhérent à cette religion, vous ne pouvez pas blasphémer. C'est une chose qu'il faut bien se rendre compte.
Mais, et si vous avez la foi, comment pouvez-vous être atteint par un dessin, par un texte, par un qui critique une pensée religieuse ? L'inverse est vrai aussi. Enfin, donc le blasphème n'existe pas.
Je dirais pas ça. Le blasphème. Le blasphème surtout, il est indispensable. Il est indispensable. D'abord, il fait partie du discours démocratique, disons. Je vous assure, moi, je suis à moitié italien. Je vais très souvent en Italie. Je ne connais pas un seul Italien qui n'ait jamais dit porco Dio, porca Madonna. Et pourtant, ils ont l'Église à la maison, hein, comme ils ont l'habitude de dire. Donc, c'est Quand vous dites, je suis pas d'accord quand vous dites que le blasphème cherche à atteindre une foi. C'est pas vrai. Le blasphème, il ne s'adresse pas à ceux qui croient. Il s'adresse directement à Dieu, à ses symboles. On dit pas bordel de croyants, on dit bordel de Dieu. Donc, on s'adresse directement au pouvoir. C'est une contestation du pouvoir. Et le blasphème, il n'est pas né dans des pays laïcs. D'abord, il est vieux comme le monde, et il est né parce qu'il y avait des religions, parce qu'il y avait un pouvoir religieux. Donc, ça n'est rien d'autre que l'exercice de la critique du pouvoir. Donc, c'est indispensable.
Je pense aussi que parmi les nouveaux censeurs dont vous parliez dans vos dernières éditions, il y a notamment le fait que l'on ne puisse plus partout exercer son droit à la satire, à la caricature. Je pense notamment au New York Times. Est-ce que finalement, il n'y a pas déjà une petite déliquescence de ces droits-là que l'on peut noter au cours de ces dernières années de par ce que vous, Marie Cabret, vous appelez les « oui, mais ». On peut, oui, mais je ne sais pas qui veut répondre entre vous deux.
L'affaire du New York Times, elle est emblématique et elle dit en creux ce qu'est le dessin de presse. C'est-à-dire que ils ont décidé, la direction du New York Times a décidé de ne plus publier de dessins suite à un dessin qui avait fait polémique, qui était considéré comme antisémite. Après, la question, c'est pas de savoir si le dessin il l'est ou pas. On en pense ce qu'on veut, c'est pas le problème. Le problème, il est que, en décidant de ne plus publier de dessin du tout, ils ont bien dit que leur problème, c'était pas au fond, c'était pas l'antisémitisme, c'était le dessin de presse. Parce que le dessin de presse, c'est un outil de journalisme et c'est un outil politique. Le dessin de presse, c'est ce qui circulait dans les pamphlets qu'on s'échangeait à la Révolution française. C'est un outil unique qui passe par le dessin. C'est la satire par le dessin, et c'est quelque chose. C'est un regard, et ça ouvre une fenêtre qu'aucun autre moyen, que ce soit l'écriture, que ce soit la parole verbale, ne pourra faire.
ça permet, en supprimant le dessin de presse, le New York Times s'est privé volontairement d'un outil journalistique d'analyse politique. Je trouve que c'est inquiétant pour la liberté de la presse. En plus, la direction a pris cette décision tout simplement, en gros, pour ne plus avoir d'emmerdement, pour ne plus avoir d'ennui avec des personnalités politiques, des lobbies, tel ou tel groupe représentant telle ou telle personne. Mais moi, à la place des journalistes du New York Times, je me serais inquiété. Je m'inquiéterais. Parce qu'un jour, eux aussi vont créer des emmerdements au journal. Elle fera quoi, la direction, là ?
Est-ce que donc finalement, ce n'est pas cette zone grise qui est la plus inquiétante ? Ce ne sont pas des attaques frontales aux droits fondamentaux, quoique il y en ait également, mais la zone grise dans laquelle on commence un petit peu finalement à naviguer, mais qui, à petits coups de canifle, sont quand même malgré tout des petits coups à nos droits fondamentaux ? Est-ce que ce n'est pas ça le plus préoccupant ?
Bien sûr, c'est le fait de s'habituer à ne plus résister. Parce que c'est dur de résister en permanence, de tenir bon sur ses idées, sur ses principes, sur ses valeurs. Il y a des moments où on a envie de se reposer un peu. C'est fatigant, surtout quand on est confronté à des coups de boutoir incessants et même des attaques plus insidieuses. Mais à mon sens, c'est la seule solution. On est confronté à un racket, au fond. Et si on cède à un racket, il ne s'arrête jamais et le prix est toujours plus fort à payer. Donc on est condamné à résister, on est condamné à dire non.
Est-ce que la zone grise dont vous parlez, quand même, vous l'avez rappelé, le cadre juridique, il est exactement le même. Rien n'a changé. On est dans un cadre extrêmement clair. Donc on a ça d'un côté qui n'a pas changé. Par contre, oui, on a des projets politiques qui ont en horreur la liberté d'expression. Ça, c'est clair. Et au milieu, on fait quoi ? On a le truillomètre à plus 50. C'est ça aussi la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre ce cadre qui n'a absolument pas changé et qui permet cette liberté d'expression dont chacun peut s'emparer à loisir, vraiment, dans le cadre que vous avez cité, et de l'autre côté, parce que c'est quand même ça qu'il faut rappeler, des projets politiques qui voudraient faire taire toute contestation. Soyons clairs, à un moment, l'islamisme, c'est pas autre chose que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait au milieu ? On se tait ? Non, on se tait pas.
Mais précisément...
Et on ne se tait pas davantage quand c'est l'extrême droite qui fait les mêmes projets.
Mais précisément, donc, parmi les sujets sensibles aujourd'hui dans les débats publics, il y a également celui de la laïcité qui revient d'ailleurs régulièrement dans les pages de Charlie Hebdo. Pourquoi est-ce que finalement la laïcité est sur la sellette donc, je rappelle, Marie Cabrette, que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Qui veut tuer la laïcité ?» Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur les raisons qui poussent à finalement remettre la laïcité dans le débat public, mais pas toujours sous sa bonne forme, et peut-être commencer par nous redonner la définition juste de ce qu'est la laïcité.
Ça commence exactement comme ça, effectivement, ça commence par avoir la même définition, ou partir de la même définition, parce qu'aujourd'hui, la laïcité est vécue comme un empêchement, ou en tout cas, on tente de dire que c'est un empêchement, ce qui est évidemment complètement faux. La laïcité, c'est quoi ? C'est la liberté de conscience. Et non pas, parce que ça on l'entend de façon récurrente et c'est faux, la liberté religieuse. Ça n'est pas la même chose. La liberté de conscience inclut la liberté religieuse, l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est la liberté de conscience, c'est cette émancipation de l'esprit, celui qui dit que vous pouvez croire, ne pas croire, changer de religion, croire en Dieu, Allah, Dupont, ce que vous voulez, c'est cette liberté-là, très précisément, qui est encadrée par une loi, puisque, encore une fois, une liberté qui n'est pas protégée, encadrée, ça ne serait pas une liberté, qui est la loi 1905. La loi 1905 est extrêmement claire. Ce n'est pas une loi anticléricale, contrairement à ce qu'on dit. C'est une loi qui protège la liberté de conscience, qui dit que l'État ne salarie aucun culte, aucun, et n'en exclut non plus aucun. C'est très clair. Et moi, ce qui est important pour moi de dire, c'est bien sûr la séparation aussi des pouvoirs, le religieux chez lui, l'État chez lui, mais c'est l'état d'esprit, en réalité, qui est important pour moi de défendre quand on parle de laïcité. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit émancipateur. Et c'est ça, c'est pour ça que cet état d'esprit est attaqué, et c'est pour ça, à un moment qu'il est remis en cause, on retrouve exactement les mêmes difficultés dont on vient de parler depuis un moment, entre ceux qui ont la trouille de la défendre, entre ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il y a un certain nombre de politiques, c'est quand même assez effarant de les entendre parler de laïcité, tant ils ne l'ont jamais lu, ne serait-ce que les trois premiers articles de la loi. On a la laïcité, et ça c'est quand même assez extraordinaire, la laïcité auquel on a eu besoin, certains en tout cas, de rajouter des adjectifs. Alors, laïcité inclusive, laïcité intransigeante, laïcité permissive, et on a même droit à laïcité radicale. C'est quand même un comble, alors que c'est la laïcité, point. C'est une liberté, point. Et pourquoi on y met ces adjectifs autour, et pourquoi, à un moment par ailleurs, les gens qui défendent cette liberté, dont je fais partie par exemple, on me définit pas comme une personne laïque, on me définit comme une laïcarde, un terme emprunté à Charles Maurras, juste au passage, c'est-à-dire qu'une liberté serait trop défendue, serait excessivement défendue. Vous connaissez un seul pays où une liberté est excessivement défendue? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est encore une fois un projet de société, un projet de société qui divise, un projet de société qui oppose, un projet de société concurrentiel entre religions, et ça s'appelle un projet politique, mortifère et barbare, on a vu le résultat.
Pourquoi est-ce que finalement le politique ne s'en empare pas, sinon peut-être l'extrême droite? Et c'est aussi ce qui porte préjudice à la laïcité, c'est qu'elle est instrumentalisée, voilà, par certains groupes qui dévoient finalement le terme en tant que tel.
Non, mais enfin, l'extrême droite, elle s'empare de la laïcité uniquement quand il s'agit de l'islam et du féminisme, pareil. L'extrême droite soutient les intégristes catholiques, donc l'extrême droite n'est pas laïque. Le problème, c'est que une partie de la gauche a abandonné ce mot à l'extrême droite. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous faisiez allusion à l'affaire de Mila, donc à propos de laquelle toute la gauche, toutes les associations, enfin pas toutes, une partie des associations féministes, notamment les associations féministes intersectionnelles. Et une grosse partie des associations de défense des LGBTI est restée muette. Et des associations de défense des droits de l'homme aussi. Et dans le numéro de Libération de samedi dernier, qui consacre 15 jours après un dossier à cette affaire, on a enfin l'explication pourquoi ils se sont tus. C'est parce que l'extrême droite a été la première à en parler, à la défendre. Mais l'extrême droite a récupéré. Mais je suis désolé, on récupère que ce que les autres laissent tomber. Donc, si on veut que l'extrême droite ne s'empare pas de la laïcité, il faut parler avant elle. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et qu'on n'a pas, et qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement.
Laura Calabrese, vous estimez qu'ici en Belgique, on est face à des problèmes similaires dans l'analyse justement des discours ou de la défense des concepts que nous venons d'évoquer?
Par rapport à la laïcité?
Notamment, oui.
Bon, les débats en Belgique sont très, très différents par rapport à la France et tout est beaucoup plus calme parce que nous n'avons pas le même modèle de gestion de la multiculturalité qu'en France et qui est ce modèle républicain qui ne donne pas de place au groupe, en fait. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas qu'ils reconnaissent pas... En fait, le modèle républicain ne reconnaît pas le groupe, c'est l'individu, c'est l'universalité, c'est le contrat que l'individu passe avec l'État. C'est ça, la nation. La nation, elle ne préexiste pas à l'État. Et donc, du coup, ici, il n'y a pas... Même si la notion de laïcité est très présente, on n'a pas du tout la même manière de gérer la multiculturalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas les mêmes modes de débat. Les débats sont beaucoup plus calmes. Mais je pense que tout ce dont on parle ici montre, qu'on le veuille ou non, un peu les limites de ce modèle républicain. Peut-être que je me trompe, le temps montrera si c'est le cas ou pas. Mais je pense que c'est un modèle qui je ne vais pas dire qu'il commence à s'épuiser, parce que c'est trop tôt pour dire ça, mais qui montre vraiment ses limites. Et puis qu'il y a des voix qui émergent, qui n'étaient pas audibles avant, et qui le sont maintenant, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Il faut voir quels sont les modes de débat, mais le fait que ces voix soient audibles, pour moi, ce n'est pas nécessairement mauvais. Si ça, du moment qu'il existe un espace où on peut tous se retrouver pour en parler, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous êtes d'accord avec ça, la limite du modèle républicain?
La limite du modèle républicain, moi je suis pas convaincu que les autres démocraties qui ont d'autres modèles, comme la Belgique ou la Grande-Bretagne, qui ont un modèle beaucoup plus, disons, ou l'Allemagne, qui ont un modèle beaucoup plus communautariste, n'aient pas au fond les mêmes problèmes que connaît la France. Ils sont confrontés au même coup de boutoir. Les débats sont de nature différente parce que, évidemment, les systèmes institutionnels sont différents. Mais au fond, ils sont confrontés à la même attaque politique, parce que c'est une attaque politique, c'est une conquête politique dont il s'agit. Ils sont confrontés à la même chose. J'allais dire heureusement ou malheureusement, enfin c'est pas la question, mais n'a pas le monopole des attaques terroristes. Au fond, quand on compare les discours des groupes islamistes, qu'ils soient en Grande-Bretagne, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient le discours est le même. Tous les États démocratiques, quelle que soit leur structure institutionnelle, fonctionnent de la même, enfin, sont confrontés au même problème.
Et si je rebondis sur ce numéro de Charlie Hebdo du 7 janvier dernier, donc celui des 5 ans, dans vos pages, Richard Malka, qui est donc avocat, affirme que le seul combat que l'on gagne en instaurant la peur de parler, c'est celui de la fin de la démocratie, pas celui d'une minorité quelconque. Qui a envie de rebondir sur ça? Le seul combat que l'on gagne en instaurant la peur de parler, c'est celui de la fin de la démocratie, pas celui d'une minorité quelconque.
Bien sûr. D'abord, je trouve que tous ces groupes qui prétendent défendre ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités, mais le mot il est un petit peu bizarre aussi, parce que maintenant on met les femmes aussi dans le groupe des minorités. C'est juste la moitié de l'humanité, hein. Donc le mot de minorité, il est un peu bizarre aussi. Tout simplement, quand on prétend défendre des personnes que l'on catégorise, que l'on identifie une fois pour toutes comme étant musulman, en disant que, bah vous savez, oui, on comprend bien, vous avez une culture qui est différente de la nôtre. Oui, nous on a des valeurs, mais bon, c'est pas tout à fait les vôtres, on comprend, c'est bien. On leur tapote un petit peu sur le crâne. Moi, c'est un petit peu, moi je dirais, c'est une attitude colonialiste, ça. Donc je suis pas convaincu que ces groupes défendent vraiment les personnes qu'ils prétendent défendre, parce que le principe même d'un État démocratique, c'est qu'on considère que tous les individus sont des adultes responsables. Et dire que certains individus seraient, par essence, imperméables à l'humour, à la critique, à la satire, c'est un petit peu bizarre comme antiracisme, je trouve. Oui, donc... voilà. Quant à effectivement la fin de la démocratie, c'est la question. Pour moi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait face à un racket. Si on y cède, le prix, il est toujours plus important. Et le prix d'un racket politique, idéologique, totalitaire, c'est effectivement la fin de la démocratie.
Voilà, donc c'est vrai qu'on comprend bien cette nécessité de protéger à la fois nos droits fondamentaux, tout en entendant ces voix contestataires et envie de préserver finalement une cohésion sociale. Je pense qu'il est peut-être temps d'ouvrir le débat avec notre public ici présent, avec certainement de nombreuses questions. Alors, afin que tout le monde puisse s'exprimer, je vous demande de formuler des questions les plus courtes et précises possibles. Et alors, je me permettrai aussi de rappeler la phrase d'Yvon Englert qui a été publiée aujourd'hui sur Twitter. C'est dans le débat respectueux que la société citoyenne lutte contre les ténèbres. Voilà. Bonne continuation.
Vous étiez le 13 février 2020 à l'auditoire K du campus du Solbosch de l'ULB. Le débat était présenté par Sandra Evrard avec Gérard Briard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Marie Cabrette, directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Laura Calabrese, professeure de communication à l'ULB, Jean-Jacques Gespers, président du conseil de déontologie journalistique. Le thème était « Charlie Hebdo, 5 ans après, la liberté d'expression, c'est fini ?» Un débat organisé par le Centre d'Action Laïque et l'ULB.